Chapitre 13. Le livre d'Esther. Mardi 11 décembre, 5 jours avant le meurtre. Une faveur, répétait Macaire en ruminant le conseil que le docteur Kazan lui avait prodigué quelques heures plus tôt. Il était 18h40 et Macaire faisait les 100 pas dans sa cuisine, tournant comme une hélice autour d'Arma qui préparait le dîner du soir. « Comment faire pour que quelqu'un vous doive une faveur ?» ne cessait-il de répéter. Il tenait en main son exemplaire de 12 hommes en colère et l'agitait dans les airs comme si cela allait lui permettre de miraculeusement prendre connaissance de son contenu. Il lui semblait que, dans la pièce, le juré qui retournait tout le monde n'avait besoin de faveur de personne pour parvenir à ses fins. Comment avait-il fait alors ? Ah, misère ! Se désespéra Macaire qui s'était endormi au milieu du film et qui n'avait pas la patience de lire tout le texte. Anastasia avait certainement lu la pièce, elle qui connaissait tout. Il devait impérativement lui parler, mais voilà près de 2 heures qu'elle était enfermée dans la salle de bain. Que fabriquait-elle ? Il avait bien essayé de partager ses tourments avec sa femme à travers la porte fermée à clé, criant à plein poumon pour surmonter le bruit de l'eau du bain qui coulait. Comment se mettre en disposition de recevoir une faveur ? Mais elle l'avait rembarré. « Pas le temps pour tes devinettes !» Du coup, il s'était rabattu sur Arma. « Comment obtenir une faveur ?» finit par répondre Arma en levant les yeux au ciel tout en arrosant le gigot. « Si seulement je le savais » « Qu'insinuez-vous ? » lui demanda Macaire qui, à son ton, avait présumé une pique à son égard.
« Je vous avais demandé de pouvoir prendre congé ce vendredi et vous me l'avez refusé. »
Oui, mais enfin, je vous ai expliqué que ça ne m'arrangeait pas, car je pars justement vendredi de bon matin pour le grand week-end de la banque à Verbier, et Anastasia sera toute seule ici. Vous admettrez que c'est bien la première fois que je vous refuse un congé. Je trouve assez désobligeant que vous osiez vous en plaindre.
Pardon, monsieur, mais c'est vous qui m'avez posé la question,
se justifia Arma.
Pardon, pardon, c'est bien joli de demander pardon à tout bout de champ. Vous n'avez qu'à prendre votre vendredi, voilà. « Je vous donne congé. J'espère que vous êtes contente. Vous voyez, je me suis encore fait avoir. Trop bon avec un grand C. Voilà ce que je suis. Allez, assez bavassé, finissez de préparer le dîner. Les invités seront là dans un quart d'heure. »
Profondément agacé par sa situation, Macaire chercha un bon prétexte pour passer ses nerfs sur Arma. Justement, il remarqua que les éclairages extérieurs de Noël étaient en marche, illuminant les arbres enneigés.
« Et à propos d'inviter, par faveur, ma petite Arma, éteignez-moi ces lumières tant qu'ils ne sont pas arrivés, voulez-vous ? Je vous ai répété 1000 fois qu'il est inutile de tout allumer s'il n'y a personne à impressionner. Ah, cette manie de gaspiller l'électricité à tout bout de champ !»«
C'est pour faire joli !»
expliqua Arma.
« C'est joli, mais ça coûte de l'argent, ces histoires ! On voit bien que c'est pas vous qui payez. Allez m'éteindre ça, zou !»
Arma s'empressa d'obéir. Macaire s'en voulut aussitôt d'avoir haussé la voix. Elle était bien, cette brave Arma. Honnête et fidèle, à leur service depuis 10 ans. Correcte et tout. Jamais malade, toujours volontaire. Et puis, elle ne demandait pas tant de congés que cela. Elle ne prenait d'ailleurs presque jamais de vacances. Pour se faire pardonner sa réprimande, Macaire, profitant de ce qu'Arma était occupé avec les lumières, se glissa dans la petite réserve attenante à la cuisine, là où son employé se changeait et laissait ses affaires, et y glissa un billet de 100 francs dans son sac à main. Lorsqu'il réapparut dans la cuisine, Arma, de retour à ses fourneaux, était en train de rôtir les pommes de terre grenaille.
« Vous avez des ennuis ? » demanda-t-elle d'une voix douce.
« Ça oui, on peut le dire. »«
Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes parti si vite ce matin, vous aviez l'air très stressé. »
Des histoires compliquées. » répondit Macaire, évasif. « Ah, vous ne savez pas la chance que vous avez de vivre une vie simple, sans emmerdes et sans préoccupations. »
Il se laissa choir sur une chaise avec un long soupir, puis se releva immédiatement dans un état de vive agitation. Il quitta la cuisine pour une inspection de la salle à manger dont il revint aussitôt.
« Dites donc, Arma, c'est quoi cet énorme bouquet de roses blanches dans le salon ?»« C'est Médème qui l'a reçu. »
« Ah bon ? Et qui a fait envoyer un bouquet pareil ?»
Arma avait envie de tout raconter à son patron. Elle n'avait plus de doute sur le manège de Médème. Hier, l'appel téléphonique,
aujourd'hui cet énorme bouquet de roses. Mais comment l'annoncer à Moussieu? Et puis, surtout, il fallait des preuves, car Médem nierait certainement. Elle affirmerait d'un ton offusqué que le coup de fil est une affabulation, elle inventerait une provenance pour les fleurs. Pourquoi mentir ainsi, Arma, alors que nous avons toujours été si bons avec vous? Qu'elle dirait. Macaire serait furieux lui aussi, elle serait congédiée. À cette pensée, Arma considéra qu'il valait mieux tenir sa langue, et à cet instant justement, Anastasia apparut, plus belle que jamais, parée d'une robe en mousseline bleu nuit que Macaire lui avait jamais vue. Waouh ! S'enthousiasma ce dernier, pensant que son épouse s'était habillée ainsi en son honneur. Je sors dîner avec des copines, lui dit alors Anastasia. Comment ça ? Jean Béné et Charlotte viennent dîner. Oh, je suis désolée. J'avais noté que c'était mardi prochain. Mais enfin, notre dîner est toujours le deuxième mardi du mois, tu le sais bien. Il faudrait instaurer le premier mardi du mois plutôt que le deuxième. Le deuxième s'apprête à confusion, la preuve. Et puis, pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé ce matin? Tu étais si pressée d'aller t'enfermer dans ton boudoir. Alors c'est de ma faute maintenant. En partie, je ne peux pas annuler mon dîner à la dernière minute. Tu ne vas quand même pas me laisser tomber. On dîne avec Jean Béné et Charlotte tous les mois. Je peux bien m'absenter pour une fois. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. Tu vas rater un dîner très intéressant, tu sais. On va parler littérature. 12 hommes en colère, tu connais? Évidemment. Ah, tu vois, tu es génial, tu connais tout. Donc tu as lu ce bouquin? C'est une pièce de théâtre, corrigea Anastasia. Je l'ai vue, oui, mais ça date. Pourquoi? Est-ce que tu te souviens de ce que fait le gars pour convaincre tous les autres qu'il a raison? Ce n'est pas une question de qui a raison ou tort. Il met les autres jurés face à eux-mêmes. Il instille le doute en eux et démonte ainsi peu à peu toute leur certitude. C'est exactement ce que j'ai tenté avec Tarnogol, expliqua Macaire. J'ai essayé de démonter ses certitudes, mais ça n'a pas marché. Tu n'aurais pas un conseil à me donner? T'as toujours des bons conseils. J'ai besoin de... Plus tard, l'interrompit Anastasia. Je dois filer. Je vais être en retard. Elle se dirigea vers le grand hall d'entrée. Macaire la suivit comme un petit chien. Tu sais, gémit-il, j'ai eu une sale journée au bureau. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir t'en parler. Sans dire un mot, elle s'empara dans la penderie d'un élégant manteau dont elle s'enveloppa. Macaire reprit. Tu pourrais vraiment sortir un autre soir. Tes amis comprendront. Elle se dit qu'elle aurait mieux fait de partir sans prévenir, pour éviter qu'il ne joue la victime ou la bombarde de questions. Ce qui ne manqua pas. Alors qu'elle avait la main sur la poignée de la porte, il lui parla des fleurs qu'il avait évidemment remarquées. Et puis dis donc, qui a fait envoyer ces roses?
La voisine, répondit Anastasia du tac au tac.
La voisine? Pourquoi la voisine t'envoie-t-elle un bouquet pareil?
J'ai ramassé son chien dans la rue l'autre jour et je l'ai ramené. Tu sais combien elle aime son chien.
Tu ne me l'as pas dit?
Pourquoi tu ne me l'as pas dit?
Moi, je te dis tout.
Je croyais te l'avoir dit.
Sympa, la voisine, en tout cas.
Je vais la remercier. Pas la peine. Je l'ai fait.
Ah. Tu ne m'as pas dit où tu sortais ce soir.
J'ai d'abord rendez-vous pour des cocktails au bar de l'hôtel du Rhône, mentit-elle. Nous irons quelque part en ville ensuite.
Je peux te déposer si tu veux,
non? Ce serait ridicule, tu te mettrais en retard pour accueillir tes invités. Amusez-vous bien ce soir. Je risque de rentrer tard. Salut Jean Béné et Charlotte de ma part.
Ils seront très déçus que tu ne sois pas là, déplora Macaire dans un dernier espoir de culpabiliser sa femme et de la retenir.
Ils comprendront parfaitement, répondit Anastasia en passant la porte d'entrée.
Macaire, dépité, s'affala dans l'un des grands fauteuils du hall, s'éventant avec son exemplaire de 12 hommes en colère qu'il n'avait pas lâché, et regarda par la fenêtre sa femme qui montait à bord de sa voiture de sport et s'enfuyait loin de chez eux. Anastasia, après avoir passé le portail de la propriété, s'engagea sur le chemin de route. Dès qu'elle se considéra hors de vue, elle se gara sur le bas-côté de la rue résidentielle déserte, ôta rapidement ses gants en cuir pour avoir les doigts libres et sortit de son sac à main la lettre qui accompagnait l'énorme bouquet de roses qu'Agostinelli, le chauffeur de Lève, lui avait apporté dans l'après-midi. Ce soir, 19h, parking de la promenade Byron. Je t'y attendrai. Lève.
La promenade Byron n'était qu'à quelques minutes en voiture de la maison des Ebesner. C'était l'endroit romantique par excellence. Le rendez-vous des couples amoureux sur un dégagement de la colline de Cologny, offrant une vue extraordinaire sur le lac Léman et la ville de Genève. Lorsqu'Anastasia y arriva, le parking était désert. Il était 18h50. Dans son impatience, elle avait 10 minutes d'avance. Elle savait qu'elle aurait dû se faire désirer, arriver très en retard, ou mieux, lui poser un lapin. Le faire poireauter, le faire mijoter. Mais depuis qu'elle avait reçu les fleurs et les mots, elle ne tenait plus en place. Elle avait passé l'après-midi à se préparer, à s'apprêter, à se pomponner. Elle avait essayé 10 robes, 15 paires de chaussures. Elle voulait être parfaite. Elle jeta pour la 3e fois un coup d'œil à sa montre. Puis elle arrangea ses cheveux devant le rétroviseur. Plus que quelques minutes avant de le retrouver. À 19h précise, Jean-Bénédicte se présenta sans sa femme à la maison des Ebesner. Cher cousin, le salua Macaire. Charlotte n'est pas avec toi ?
Elle n'est pas bien.
Encore ses sautes d'humeur. Ces derniers jours, elle avait pourtant l'air en bonne forme. Mais voilà qu'en rentrant de la banque, tout à l'heure, je la trouve enfermée dans le noir. Elle dit qu'elle a besoin de repos. Je lui ai fait remarquer que c'était très impoli de se décommander à la dernière minute. Figure-toi qu'Anastasia m'a fait le même coup. Elle s'est soi-disant trompée dans la date de notre dîner et elle est partie dîner avec ses copines.
Tu sais quoi ?
Tant mieux pour nous, tant pis pour elle, décréta Jean-Bénédicte. Et puis ça nous permettra de parler de nos petites affaires tranquillement. Macaire entraîna Jean-Bénédicte dans le salon pour lui servir un apéritif. Il lui raconta alors ce qui s'était passé depuis la veille avec Tarnogol et comment, après l'avoir convaincu de le nommer président en échange d'aller lui chercher une lettre à Bâle, il avait tout gâché à cause d'un misérable quiproquo.
Explique le quiproquo, demanda Jean-Bénédicte.
Pas important, répondit Macaire en effectuant un geste du revers de la main. Une histoire de courrier en souffrance.
Enfin bref, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un moyen de retourner Tarnogol. Nous avons la soirée pour y parvenir.
Au même moment, toujours dans sa voiture sur le parking de la promenade Byron, Anastasia attendait tranquillement. L'heure du rendez-vous était dépassée d'un quart d'heure et Levovitch ne s'était pas encore montré. Un peu de retard, cela pouvait arriver. À 20h, dans la grande salle à manger des Ebesner, Macaire et Jean-Bénédicte se régalaient du gigot et pommes de terre grenaille à l'ail et au gros sel préparé par Arma, tout en devisant de la stratégie à adopter pour infléchir la décision de Tarnogol.
J'ai lu 12 hommes en colère, comme tu me l'as demandé, indiqua Jean-Bénédicte. Mais je ne suis pas certain de pouvoir faire un lien avec ta situation. Il s'agissait d'instiller le doute en Tarnogol et démonter ainsi peu à peu toutes ses certitudes sur Levovitch, expliqua Macaire, répétant mot pour mot ce que sa femme lui avait dit à propos de la pièce. Mais j'ai déjà tout fait comme dans le livre et ça n'a pas marché. Il faut trouver autre chose, et vite. Le temps joue contre nous. Le vote est dans 4 jours.
Tu as une piste ? Demanda Jean-Bénédicte.
J'en ai parlé aujourd'hui au docteur Kazan qui a eu cette idée géniale. Il faudrait mettre Tarnogol en position de me devoir une grande faveur.
Et cette faveur serait la présidence, comprit Jean-Bénédicte.
Exactement. Ah, je voudrais tellement que Kazan prenne Charlotte comme patiente,
espéra Jean-Bénédicte à l'évocation du nom du praticien. Macaire, tout en remplissant de cheval blanc le verre de son cousin, lui annonça sur le ton de la confidence.
C'est peine perdue, cher Jean-Béné. Il m'a dit qu'il ne prenait que les gens importants, mais aide-moi et je t'aiderai. Dépêchons-nous donc de trouver une solution. Comment obtient-on une grande faveur ?
En rendant un grand service, suggéra Jean-Bénédicte.
J'ai déjà rendu un grand service en jouant les postiers nocturnes jusqu'à Bâle, rappela Macaire. Il faut trouver autre chose.
Sur la promenade Byron, dans le froid de l'habitacle de sa voiture, Anastasia attendait toujours. Lev avait à présent 1 heure de retard. Il avait été retenu, sans doute. Le président de la République, peut-être. Il y avait forcément une bonne raison. Elle décida d'attendre encore. 21h, dans la salle à manger des Ebesner. Jean-Bénédicte et Macaire avaient largement entamé la célèbre tarte aux pommes d'Arma, dont les invités raffolaient toujours, ainsi qu'une 2e bouteille de cheval blanc, lorsque Jean-Bénédicte eut soudain une illumination.
Il y a 15 jours, le pasteur berger est venu prendre le thé à la maison. Il nous a parlé du livre d'Esther.
C'est qui encore cette enquiquineuse ?
s'agaça Macaire qui ne voyait pas le lien avec le reste de la conversation. À moins que cette Esther ait écrit un livre sur la manipulation mentale.
Le livre d'Esther fait partie de l'Ancien Testament, expliqua Jean-Bénédicte d'un ton de bigot. On y raconte comment, 500 ans avant Jésus-Christ, en Perse, le roi Assuérus prend pour nouvelle épouse Esther, l'une des plus belles femmes du royaume, mais qui, pas de chance, est juive. Mardoché, l'oncle d'Esther, recommande à sa nièce de ne pas révéler qu'elle est juive, pour éviter les emmerdes. Esther devient donc reine, et son oncle, Mardoché, lui rend régulièrement visite et traîne par conséquent souvent au palais. Un jour, Mardoché surprend deux soldats qui ourdissent un complot contre Assuérus. Il les dénonce et sauve ainsi la vie du roi. Parallèlement à cela, Haman, le méchant vizir du roi, s'agace de la présence de Mardoché dont la tête ne lui revient pas. Lorsque Haman apprend que Mardoché est juif par-dessus le marché, il décide de faire massacrer tous les juifs du royaume et parvient à persuader le roi Assuérus, qui ignore que sa femme Esther est juive, de signer un décret en ce sens. Apprenant la terrible nouvelle, Mardoché informe Esther qu'elle est la seule à pouvoir convaincre Assuérus de revenir sur sa décision.
« Le grand retournement !» s'exclama Macaire, soudain passionné par le récit.
« Et alors, comment s'y prend-elle, cette brave Esther ?»
Jean-Bénédicte reprit.
Esther invite Assuérus et son vizir Haman à la rejoindre pour deux grands festins. Après le deuxième repas, Assuérus, qui a mangé comme un ogre et s'en trouve fort et joui, demande à sa femme « Que puis-je pour toi, ô Esther, ma petite chérie ?» Sur ce, Esther lui raconte tout, qu'elle est juive et que Haman veut tuer tout son peuple, et donc elle avec. Assuérus tombe des nues.
« Esther, tu es juive? Et ton oncle Mardoché, il est juif aussi ?»
Assuérus fait évidemment annuler le décret du massacre. Les juifs de Perse sont sauvés et le méchant Haman est zigouillé.
« C'est une histoire à dormir debout !»
s'indigna Macaire qui n'était pas convaincu du tout.
« C'est la Sainte Bible !» rappela Jean-Bénédicte.
« Enfin, quand même !» Ta bonne femme, elle invite deux fois son Gus à bouffer et paf, le voilà qui change d'avis. C'est vraiment n'importe quoi. Et dis-moi, comment cette histoire à la noix est censée m'aider à retourner Tarnogol?
N'oublie pas que Mardoché a sauvé la vie du roi, intervint Jean-Bénédicte. Ça a sûrement pesé dans la balance.
Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Macaire.
Si tu sauves la vie de Tarnogol, il te nommera président.
Lui sauver la vie? Dit Macaire.
D'ici samedi? Mais comment?
Il y eut un long silence dans la pièce. Macaire se mit à cogiter. Il marcha en rond autour de la table, s'efforçant d'imaginer ce qu'aurait suggéré Wagner si cela avait été une opération de la P30. Soudain, frappé d'une illumination, il s'écria
« J'ai une idée! J'ai l'idée du siècle! On va essayer de le tuer et de le sauver en même temps !»